Love Exposure, Cold Fish, Guilty of Romance, trois films réalisés entre 2008 et 2011 par Sono Sion, qui sont regroupés sous le terme ou la terminologie de trilogie de la haine. Alors qu'est-ce que c'est déjà cette trilogie de la haine? Personne ne le sait. Martin?
T'es collé.
Collé. Fini.
Non mais...
Bah pourquoi tout non, mais... non, Martin, Victor, toi, c'est quoi la trilogie de la haine, Victor?
Alors pourquoi on l'appelle la trilogie
de la haine, Victor?
Et qui l'a fait? Il y a trois films qui l'appellent la
trilogie de la haine. Trilogie de la haine et du chaos, en plus.
Mais oui, la vraie trilogie, c'est la haine et du chaos.
Alors, non, mais c'est une vraie question, du coup, parce que c'est vrai que les trois films sont extrêmement différents. Donc Love Exposure, qui est un film réalisé en 2008, qui consiste à définir le cinéma comme étant l'art qui regarde sous les jupes des filles, à peu près. Cold Fish, qui est le premier, le Sono Sion, qui fait partie donc des Sushi Typhoon, qui est un élément important puisqu'il a commencé à travailler avec l'Anikatsu quelques années précédentes, et que là il s'affirme au sein du studio en collaborant à la création avec Takashi Miike, Nishimura, donc notamment de ce label de cinéma de genre pour l'exportation créé par l'Anikatsu. Et enfin Guilty of Romance, qui rejoint les préoccupations notamment érotiques et de l'Eroguro dont Elias parlait. Donc trois films très différents, mais qui sont collés sous une étiquette, voilà, ou alors est-ce que c'est une étiquette qui est justement purement commerciale, pour dire il y a trois films qui ont une visibilité plus importante par rapport au fait de les regrouper, ou est-ce qu'il y a des vrais liens thématiques entre ces trois œuvres?
Il y a des liens thématiques entre les trois œuvres, mais il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant, c'est que moi quand j'avais parlé avec Sono Sion, c'était en 2010, donc 2 ans après la sortie de Love Exposure, et il me disait que justement la trilogie c'était Suicide Club, Testament de Noriko et Love Exposure, qui parlent tous les trois justement d'un mouvement sectaire, etc. Donc je pense que c'est les trilogies, on peut en faire autant qu'on veut. Et je pense que c'est permutable.
Ah oui, Sono Sion étant un vrai artiste, on retrouve des thématiques communes dans toute sa filmographie, même s'il l'exprime différemment, même si ses films restent vraiment très très différents les uns avec les autres, on retrouve quand même des préoccupations communes, des thématiques communes.
Dans tous les films.
Ouais. Oui, c'est ça.
Non, mais là, je pense juste c'est parce que ces films ont commencé à beaucoup tourner dans les festivals. Voilà, tout simplement.
Moi, je pense que c'est commercial.
Exactement, c'est purement commercial.
Je pense que ce film est plus de points communs que d'autres. Parce que là, on fait trilogie de la famille avec Cold Fish, Noriko et.
Non, oui,
et
voilà.
La famille joyeuse.
Non, mais ils sont arrivés coup sur coup. On va essayer dans les plus gros festivals de films fantastiques.
Ça permettait de les regrouper. Pourquoi pas.
Mais les distributeurs aiment bien faire des regroupements entre des films pour dire justement la trilogie de machin. Ou... Ça permet de mieux le mettre en avant. Donc.
Mais t'en vois un, tu te dis que t'es obligé de voir les deux autres.
Bah oui, c'est ça.
Alors on va les prendre un par un. Et dans leur individualité. Yannick, est-ce que tu peux nous parler de cette pierre angulaire de la filmographie de Sono Sion, qui est Love Exposure?
Ah bah, déjà, Love Exposure, c'est donc mon film préféré de Sono Sion. Donc. C'est un monument, quoi. Le film, il dure quasiment 4 heures, qu'on ne voit pas passer. Il y a tellement de thématiques, je me rappelle l'avoir découvert en import, et de me l'être pris en pleine gueule, quoi. Le film commence, on s'attend du Sono Sion classique, je dirais, mais il part vraiment dans tous les sens. C'est sur la jeunesse, sur les sectes, sur la religion, sur... Il y a tellement de thématiques qui s'entremêlent, qui se balancent, que le film reste d'une densité, d'une violence graphique, d'une violence...
Émotionnelle.
Émotionnelle, merci, je cherchais le terme. Que c'est un film... Très peu de cinéastes peuvent se targuer d'avoir fait quelque chose d'aussi intense, d'aussi important.
Marc ?
Effectivement, oui, Love Exposure, pour les néophytes de ce notion, s'ils doivent voir un film en priorité, c'est vraiment celui-là, parce que c'est une sorte de patchwork, best-of, du moins d'une période de la cinématographie de ce notion. Et pour moi, c'est l'aboutissement, justement, on parlait des trilogies tout à l'heure, de Suicide Club et du Testament de Noriko. C'est vraiment le film qui clôt vraiment cette trilogie, justement, sur les sectes, l'embrigadement, sur l'amour. Et effectivement, donc c'est un opus de 4 heures qui mêle beaucoup, beaucoup de thématiques de Cher à Solution. Il utilise aussi une sorte de chapitrage du film, chapitrage qui était déjà introduit dans le testament de Noriko, donc, et qu'on verra par la suite dans d'autres films de Solution. Et ouais, c'est effectivement, le film est assez long, il dure 4 heures, donc il mêle beaucoup, beaucoup de thématiques. C'est là où ce notion introduit la systématisation de la musique classique avec le boléro notamment dans les scènes phares. Et ouais, c'est vraiment l'aboutissement de son cinéma. Et effectivement, il y a très peu de cinéastes qui peuvent justement se permettre de faire quelque chose comme ça. Le film dure 4 heures, mais il y avait un premier montage qui durait 6 heures et il l'a quand même coupé. Et le film et les deux acteurs principaux du film, donc ils sont deux ados, sont vraiment très convaincants et assez exceptionnels.
Et
Sakura Endo.
Il y a des ruptures de ton dans la réalisation aussi, avec des moments quasiment documentaires.
Oui, absolument. Il y a certains passages filmés en 8 mm.
Non, mais ils en parlent très bien en fait. Non, mais en fait, moi, quand j'ai vu ce film, c'était bon. Après cette longue période d'arrêt, c'était bon, j'ai repris quasiment avec ce film-là. Mais je me suis demandé, enfin, effectivement, ça dure 4 heures, c'est hyper riche, effectivement, des ruptures de ton incroyables. Et je me suis dit, ça aurait été super en série, quoi. Il aurait pu allonger clairement la durée et en faire une série. Enfin, moi, je ne me suis pas fait chier une seule seconde pendant 4 heures. Quoi. Donc, c'est assez fou. Hein. Et effectivement, il a produit super bien ses personnages. La durée du film lui permet ça. Et on se sent hyper impliqué avec eux. Quoi. Enfin, on est vraiment très proche d'eux. Moi, j'étais assez.
Du coup, est-ce qu'il ne fait pas quelque chose finalement de plus conventionnel quand il revient au film de genre avec Cold Fish, avec quelque chose de beaucoup plus cadré?
Je dirais que c'est faussement conventionnel, parce que oui, on a quelque chose de beaucoup plus posé. On a c'est un tueur en série qui cherche un apprenti finalement pour prendre la relève, mais derrière ça il y a une folie graphique absolument phénoménale qui fait que c'est ce qu'on disait avec Suicide Club. Il prend la J-Horror pour l'exploser complètement. Là il prend le thriller horrifique sanglant pour en faire quelque chose de beaucoup plus dense, avec justement la violence latente chez ce Japonais qui a une vie toute tranquille, une vie de famille tranquille. Il prend encore la famille et il l'explose. Donc c'est vraiment faussement conventionnel.
Et on peut voir aussi dans Love Exposure que ce notion allie avec vraiment brio cette passation entre à la fois l'amour pur, la pureté totale, et en même temps un côté très grivois, puisque le personnage principal prend des photos des culottes des japonaises et en même temps joue dans des sortes de vidéos à moitié porno. Il y a un moment, une scène qui est vraiment très drôle, où avec un pénis géant sur une scène, où le type fait des conventions, où il explique l'art de prendre des photos de culottes, etc. Et en même temps, par rapport à ce côté grivois et trivial, il y a complètement l'amour pur que voue le personnage principal envers sa sœur par alliance, qui a un petit côté encore pseudo-incestueux, qui est assez bien senti.
Mais le côté grivois, c'est une réponse au père chrétien extrêmement puritain, quoi.
Pas si puritain que ça, d'ailleurs.
Non, non, mais il y a cette image qu'il essaye de présenter de lui, complètement puritaine. Et justement, le fait qu'il n'arrive pas à se tenir à cette imagerie-là fait qu'en réponse à ça, le fils va essayer d'expérimenter. D'ailleurs,
il va faire des péchés.
D'abord, il croit qu'il ne peut exister auprès de son père qu'en péchant. Pour se confesser. Et après, donc, il y a à la recherche du péché toujours supérieur, il plonge dans le côté grivois de la photographie de culotte, quoi.
Il cherche le péché originel.
Mais c'est ça. Non, mais c'est clairement ça.
Et autant que je me souvienne, dans ce film, le père, donc le prêtre, au début, il est assez progressiste et même très à l'écoute de ses paroissiens. Et c'est suite à une rupture douloureuse où finalement, son aigreur se transmet dans ses sermons et devient il y a une espèce de catho intégriste où justement la femme est la source de tous les péchés et puis il veut absolument élever son fils de manière hyper égoïste. Et là, c'est là où il y a finalement le fils sent qu'il perd le contact avec son père finalement et cherche un moyen complètement fou pour retrouver ce lien finalement.
Et là, on voit encore le côté extrême de ce leçon, puisque tu dis qu'il coupait les ponts avec son fils, mais enfin, il a radicalement coupé les ponts avec son fils. Genre, il ne voulait même plus le voir, la famille complètement explosée. Ouais.
Mais tout tourne autour de l'amour et de la famille, en fait. Je veux dire, ce qui te fait radicaliser, c'est justement l'histoire d'amour qui tourne mal. Son fils, du coup, recherche l'amour de son père en pétant un câble et en photographiant des culottes, etc. Du coup, il perd l'amour de... Enfin, voilà, tout tourne autour de... Vraiment, pour moi, c'est une histoire d'amour dans toute sa pureté.
De sa pureté. Mais il voulait aussi aborder le thème de la religion, chose qu'il a toujours fait de manière un petit peu détournée, mais là, de manière vraiment plus frontale, que ce soit avec les religions vraiment très installées, comme la religion totaliste, comme chrétienne, et puis les sectes, finalement, qu'on voit aussi. Et il racontait dans une interview que, lui, il ne se sent pas religieux, mais il disait, par contre, autant il apprécie les idées promues par Jésus-Christ qui sont, tu vois, l'amour, la tolérance, l'ouverture et tout. Par contre, il était extrêmement méfiant envers les institutions religieuses et tout ce qu'elle véhiculait derrière, justement, de méfiance envers les gens et puis de haine et qui vont complètement à l'encontre du bon sens.
Il pointe l'hypocrisie complètement, entre la parole et les actes.
Et voilà, il arrive à le synthétiser au travers du personnage du père qui, le bon sens disparaît parce qu'il a vécu quelque chose de très douloureux et du coup il transmet son mal finalement à tous ses apôtres. Voilà, c'est ça.
Ce que Martin m'a dit déjà avant de. Voilà, dans ce que je dis, ça me rappelle. Son nom qu'on peut rapprocher d'un autre cinéaste qui est lui aussi fan de Jésus, c'est Verhoeven. Et justement, les deux se revendiquent comme n'aimant pas la religion institutionnalisée, mais qu'ils aiment le personnage de Jésus. Ils disent, son ancien et Verhoeven se considèrent comme des fans de.
Et Showgirls est un des films préférés de ce monsieur.
Voilà.
La boucle. De Tarantino aussi. Gaël.
Je pourrais rebondir juste après, mais j'avais une question sur cet intérêt pour les sectes et notamment le suicide collectif. Je me demandais les attentats avec le 5 qui a quand même vachement remarqué. Est-ce que ça.
Il s'est inspiré de ça.
Oui, il s'est inspiré de ça. Le Suicide Club, c'était clairement ça.
La secte qu'il avait recrutée à l'époque, c'était la secte O, en fait.
D'accord.
Il a appris plus tard
que c'était O, en
fait. Ok. Et ce que je voulais dire sur le Love Exposure et sur Cold Fish, et peut-être sur aussi. C'est que les trois justement sont, pour relier Sonotion à une culture plus générale qu'il a, sont des récits initiatiques en fait de jeunesse, un peu comme les récits allemands où justement les jeunes doivent souffrir pour trouver et affronter la réalité du monde et se trouver eux-mêmes, etc. Et Sonotion reprend à chaque fois cette structure comme ça qui vient de...
Bildungsroman.
Voilà, le Bildungsroman.
Oui, mais Goldfish, si ça prête bien de l'initiation, c'est pas la jeunesse, là.
Oui, mais justement, tous les personnages de Sonotion, pour moi, sont des adolescents. Même le personnage de Goldfish, parce qu'au début, justement l'affrontement qui se fait entre le plus vieux serial killer et lui, c'est parce qu'il justement il n'est pas vraiment adulte, il n'arrive pas à s'affirmer, il arrive et il le prend sous son aile comme si c'était son père ou des choses comme ça, et il s'affirme justement en le tuant, et c'est là qu'il devient un homme, et c'est justement là qu'après il retourne vers sa femme, etc. Et tous les personnages de Sonotion sont comme ça des adolescents refoulés, et justement il y a une vague au Japon comme ça de gens adultes qui revendiquent le fait de rester adolescent et de penser comme des adolescents, ça s'appelle le Shunibyo, et c'est un mouvement au Japon comme ça d'adultes qui restent dans l'adolescence, et justement je pense que le cinéma de Sonotion est une sorte de cinéma Shunibyo,
un cinéma de rite initiatique permanent,
oui voilà,
où c'est le, oui non mais clairement.
Alors on y arrive avec une autre partie, on va essayer de relier aussi Guilty of Romance et y reparler, mais parler effectivement d'Imizu, parce que ça va dans cette thématique du roman initiatique, et quelque chose dont on a parlé qui est, je crois que c'était Martin qui t'en parlait hors micro, mais on va en reparler, d'une réaction aussi de Sonotion à l'actualité. Et là c'est vrai qu'avec Imizu et avec Land of Hope, donc des films qu'il va réaliser, après Guilty of Romance.
Whispering Star aussi.
Sauf que Imizu, en fait, c'est Adapté de Manga qui a été écrit avant.
Il l'a réadapté à l'adapté
par rapport justement aux événements.
Donc Martin.
Bah justement, comme il racontait Elias, c'est Imizu, c'est une adaptation, donc c'est un roman ou un manga, voilà, qu'il a réactualisé justement suite au désastre de Fukushima. Et on retrouve encore un personnage d'adolescent un peu marginal, à l'écart, qui tente de survivre. Et, voilà, il y a une jeune fille qui est folle amoureuse de lui aussi. C'est un peu en. Voilà. Fumi Nagaido. Ouais. Voilà, donc voilà,
enfin, c'est la première collab avec Shota.
Et Shota, oui. Voilà,
c'est là où ils sont vraiment.
Voilà, ils trouvent vraiment un couple de jeunes acteurs japonais qui sont presque emblématiques de cette nouvelle génération, je trouve. Aussi bien par leur qualité de jeu que par ce qu'ils représentent. Et puis il y a une espèce, vous voyez, c'est un peu les années sauvages, quoi, quelque part, mais dans un monde complètement dévasté, de ruines, et c'est comment réussir à se reconstruire, et puis voilà, il y a toujours un côté un peu naïf, mais hyper sincère, sur le côté, l'amour, en réalité, c'est notre moteur, c'est ce qui peut nous faire vivre, quoi.
Il y a beaucoup de love exposure, en fait, dans
Ah oui, bien sûr.
Mais moi j'aimerais parler de la forme, parce que autant sur la forme Love Exposure justement emprunte plusieurs genres, etc. Et même fait des références par exemple à la Fab Scorpion ou des choses comme ça avec la tenue de machin. Autant Imizu justement s'inscrit dans un autre sorte de cinéma qui montre l'éclectisme de Sonotion. Parce que Sonotion s'inscrit dans Imizu s'inscrit dans une sorte de nouvelle vague et même nouvelle vague française, parce que dans Imizu il y a des scènes qui me font penser à des films de Jean-Luc Godard, et notamment la scène où Shota se barbouille la face de voiture, qui fait penser à Pierrot le Fou, exactement, et qui montre l'éclectisme de Sonotion et sa volatilité dans les genres qu'il emprunte comme ça.
Et on peut voir aussi dans Imizu qu'il y a, au niveau des acteurs, il y a le retour d'une des actrices qui jouait la petite sœur dans Le Testament de Noriko, ce qui fait qu'après, il y a des acteurs qui sont récurrents dans les films de Sonotion, comme si, au fait, dans toute son œuvre, il voulait faire une sorte de comédie humaine balzacienne, mais sauf Japon 90. Ouais,
c'est important de parler effectivement de ces acteurs.
Voilà. Mais il a sa bande un peu comme Alain René.
Tout à fait. Il a sa femme, etc.
D'ailleurs, en fait, pour pouvoir parler donc des acteurs avec lui en interview, en gros, son notion avec les acteurs, en fait, il tient à faire deux choses. Le premier, c'est vraiment de créer son réseau et de faire tourner les acteurs avec qui il a une relation assez importante et assez. Une relation donc assez intense, c'est-à-dire avec sa femme, avec Shota, qui est beaucoup tourné. C'est vraiment les deux principaux qui va faire tourner. Mais lui, c'est vraiment son but, c'est de faire tourner des acteurs peu connus en fait, et de les faire découvrir. Moi, je vais demander pourquoi, parce qu'en ce moment, elle est un peu en train d'exploser au Japon. Pourquoi est-ce qu'il ne tourne plus avec Sakura Endo, alors qu'elle a quand même fait découvrir avec l'exposure. Il m'a répondu parce que maintenant, elle est connue et mon rôle, c'est pas de faire tourner des gens connus, c'est de faire tourner des gens pas connus et de les faire découvrir aux gens. Donc je pense que Sonotion, son but, c'est plus de faire montrer des acteurs et de les faire monter en tant qu'eux-mêmes. Sauf exception, c'est-à-dire Shota et sa femme, qui sont tournés par relation pure dans ces films.
Je pense qu'il pourra se permettre aussi de leur faire jouer des choses, des trucs, des rôles assez spécifiques. si tu fais jouer des acteurs assez connus, donc assez qui sont déjà dans le système, qui sont bien posés, il aura peut-être du mal à leur faire à leur proposer, à leur faire accepter de jouer des rôles un peu particuliers, alors que quand ils sont inconnus, ça
Elvire,
ça
coûte. Et ils coûtent plus cher aussi.
Ils coûtent plus cher, beaucoup plus.
Sachant qu'il produit quand même pas mal de films par an, il peut pas forcément, j'imagine qu'il peut pas forcément se permettre de prendre des têtes d'affiche en fait.
Après, ce n'est pas forcément par choix, puisque un élément important, c'est qu'aussi Sonocion est quand même devenu, là, depuis quelques films dont on parle, un cinéaste de studio. Il travaille maintenant au sein de studios très importants, dont la Nikkatsu, on en a parlé. Et la Nikkatsu va pas forcément lui laisser le choix de choisir ses acteurs sur certains projets. On va lui dire, voilà, il faut tel acteur ou tel acteur. Et il me semble que Sakurando, Elias,
pourquoi Sakurando, vous n'êtes plus avec, maintenant elle est vraiment bien et qu'elle est vraiment très bien, parce que je le ferai le jour où la production me dira de le faire. Moi, j'ai pas tant de choix que ça.
Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine forme de normalisation du cinéma de Sonocion et de sa place dans le cinéma japonais depuis le début des années 2010?
Ce qu'il m'a dit pendant l'interview, c'est Elias, que lui ne veut pas du cinéma japonais, que le cinéma japonais ne veut pas de lui. Il m'a dit qu'il voulait, je cite, c'est vraiment la phrase qu'il m'a dit en tant que tel. On en parlera après quand on parlera des 5 films qu'il a sortis en 2015. Mais lui, je sais que lui en est conscient, mais vraiment il souhaite revenir. Lorsque je lui ai demandé si son cinéma se normalisait, etc., il m'a dit peut-être franchement, mais moi tout ce que je veux, c'est, je pense que mon prochain film se rapprochera plus de ma période avant Suicide Circus, Suicide Club, excusez-moi, que mon cinéma actuel.
Ça fait pas 5 ans qu'il dit ça?
Ça fait très longtemps qu'il dit ça.
Et non, mais il change de discours aussi.
Alors qu'il tourne Shinjuku Swan 2.
Oui, enfin, il a fini Shinjuku Swan 2.
Il le dit à ce moment-là quand même.
Mais il a une famille
En même temps, il doit avoir ses envies et les exprimer. Et puis d'un seul coup, on lui propose des trucs.
Il faut qu'il bouge.
Je pense que c'est
quelqu'un
qui. Mais surtout, il faut bien qu'il finance ses films personnels.
C'est ça.
Et il n'a pas le choix.
Mais ça fait quand même un certain nombre d'années qu'il dit toujours qu'il va revenir à la période avant.
En même temps, on lui présente le casting de Virgin Psychique, c'est normal qu'ils disent oui, quoi.
Sauf que, pour revenir à ça, ou Whispering Star, qui est son dernier film qui est sorti au Japon donc en mai, qui sortira bientôt peut-être dans le festival français, c'est vraiment le premier film qu'il a écrit, qu'il a scénarisé. Il me l'a dit à l'interview, je l'ai écrit à 25 ans. À l'expo où je suis allé, il y a des storyboards qui datent d'il y a 20 ans. Ce film est adapté d'une poésie qu'il a écrite il y a très longtemps quand il était poète, et il me dit c'est un retour aux sources, c'est un retour à ce que je voulais faire dès le début, ce que je voulais faire à mes débuts, et donc peut-être qu'il prouve aussi un peu ça avec ce film qui est certes très léché et très pro, qui n'est pas du tout expérimental dans la forme et dans la...
Alors juste on va recontextualiser un peu parce qu'on était à Imizu, il fait Imizu, Land of Hope. Il arrive à une période extrêmement prolifique où il va enchaîner des films qu'on a vus en festival, Why Don't You Play in Hell, Tokyo Tribe, et on arrive en 2015 où finalement il y a plusieurs projets qui se télescopent et on arrive à 5 films, donc Tag, Love and Peace, Virgin Psychique, Shinjuku Swan et Whispering Stars. Donc, dont tu parlais et qui effectivement
on
revient
plus tard, si
on en parle maintenant et on va parler de toute cette période justement, donc, et il revient effectivement a priori à un cinéma donc des origines.
Elias,
tu l'as vu au Japon?
Je l'ai vu au Japon, je l'ai vu une semaine après la sortie, il passait que dans une toute petite salle à Shinjuku, il fallait le prendre au second sous-sol, etc. Donc non.
Le second sous-sol pour moi, c'est une notion.
En même temps, normalisation dans les critères ce notion, je veux bien, mais un type qui sort quand même Virgin Psychic et Tag dans la même année et Love and Peace, qui sont trois films qui sont radicalement différents. Bah,
oui, j'aimerais en voir plus souvent.
Oui,
hein. Bah, justement, ce notion est devenu un cinéaste de studio pendant un moment. Et encore pour refaire la comparaison avec Verhoeven, c'est qu'il pervertit les films de studio de l'intérieur. Par exemple, Tokyo Tribe, c'est une commande. On lui demande d'adapter le manga Tokyo Tribe. Et il en a fait ce qu'il en a fait. Quoi. Enfin, il a.
Oui, mais par exemple, j'ai pas vu Shinjuku Swan, mais quand on lui demande de faire Shinjuku Swan, il a aucun moyen de pouvoir pervertir.
Je l'ai vu il y a quelques jours. Et
c'était bien.
En fait, effectivement, on n'a pas l'impression de regarder un film de Sonocion. C'est comme s'il était absent du film. Après, ça se laisse regarder, mais c'est pas son souvenir est périssable.
Il semble que ouais, elle a eu moins de liberté que sur Tokyo Pride. En fait, ce qu'il m'a dit encore une fois, là, quand j'ai demandé l'interview, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi il aurait renié le film, il m'a dit que c'était faux. Mais simplement, en fait, il l'a pas renié, mais c'est pas un film de lui.
Donc, il a pas signé, quoi.
Il a juste posé la caméra, il a tourné. Il a dit qu'il a pris ça comme un nouveau défi, un nouveau type de faire des films. Mais il m'a dit le truc, tout était fait, tout était programmé, tout était énorme. Il avait juste à faire la réa, donc il est arrivé, il a fait la réa, tout était écrit, tout était engagé, il a juste posé la caméra comme il voulait, mais tout ce qu'il a fait lui, à part ça, il a rien touché à rien. Il a dit que pour le 2, c'est encore pire, il a même pas choisi l'exemple de caméra. Il a juste pris la caméra et l'exemple derrière.
Ça nous bien. Donc il a pris le chèque et apparemment il fait le 3.
Oui, mais c'est grâce à ça qu'il pourra nous faire des films bizarres.
Exactement.
C'est alors de cette période, quel film faudrait retenir de ce monsieur
Tokyo Tribe. De quelle période
que moi je m'attendais à Wild Hunt Payne.
Wild Hunt Payne et Wild Hunt Payne sont géniaux.
Et Whispering Star.
Wild Hunt Payne pour moi c'est vraiment son cri d'amour au cinéma. C'est vrai, il a fait une métafilm. Oui, et le fait de manière complètement décomplexée, punk.
Il y a une folie, putain, dans ce film.
Mais ça n'arrête pas, et ça monte crescendo. Et alors, le final, c'est un truc, mais de malade. Mais voilà, mais je me souviens, les gens étaient complètement excités à applaudir le moindre truc. C'était. Voilà,
c'est. Non, mais toi, tu vois le caméraman qui filme et qui mitraille en même temps.
Voilà,
c'est juste l'idée du siècle, quoi.
Mais je sais pas si vous avez eu cette impression, mais dans Wild Hunt il n'y a aucun des personnages
l'idée c'est quand même un copain
dans Why Don't You Pay Hell dans Why Don't You Pay Hell il n'y a aucun des personnages qui sont sympathiques, en fait c'est tous des connards.
Oui.
Je sais pas
oui.
si vous avez genre le cinéaste il est égocentrique, égoïste.
Non, il y a le jeune qui se fait embrigader là-dedans, le jeune c'est le qui tombe amoureux de Fumi Mikaido et qu'on suit tout le long du truc, qui se retrouve là on sait pas comment et qui se retrouve dans l'espèce de machination au final on s'est à lui qu'on s'attache
et qui lui est le personnage le plus émotionnel vu qu'il est empreint d'amour fou pour Fumi Mikaido et il est prêt à le prendre et même il revient des morts avec la tête écoutée pour lui dire qu'il l'aime et tout ça.
Mais je trouvais ça assez étonnant de justement faire un film qui est agréable à regarder, mais avec que des personnages connards.
Oui, et puis une telle folie dans les séquences qui est absolument effarant. Quoi.
La pub du dentifrice,
vous avez marqué.
Oui, la pub du dentifrice, c'est génial.
Et qu'il a reprise dans un autre de ses
films. Oui,
dans
Love and Peace. Dans Love and Peace,
pendant le concert. En mettant en mode métal.
Ouais, il joue la chanson.
Et pour Tokyo Tribe, moi j'aime pas les comédies musicales, j'aime pas le rap, j'ai adoré quoi.
Ouais.
Lui non plus, il aime pas le rap. Hein.
C'est absolument grandiose, c'est magique.
Ce qui est fort dans Tokyo Tribe, c'est qu'il arrive à, comme tu disais tout à l'heure, il arrive à amener. Je crois qu'il connaissait pas trop l'univers de la rue justement et des rappeurs.
Il a pris les meilleurs.
Et il a pris vraiment. Il a vraiment allé prendre des professionnels et il les a amenés dans son univers à lui quoi. Il est allé dans leur univers et il les a ramenés, il arrive à faire les deux et cette équipe qui donne à Tokyo Tribe vraiment un côté
justement Sonotion justement collabore beaucoup avec les scènes alternatives de toutes sortes dans la musique parce que par exemple justement pour Tokyo Tribe il est allé chercher les meilleurs rappeurs noirs ou comme par exemple dans le quand il fait Tag la musique c'est fait par Mono qui est aussi l'un des grands groupes alternatifs japonais. Ou dans Shinjuku Swan, même s'il n'a pas choisi, la musique est faite par The Novembers, qui est un groupe de post-punk revival aussi, et qui avait une certaine hype dans le milieu underground japonais, etc. Et donc, Sonotion justement collabore toujours avec les jeunes et les jeunes artistes et suisses qui se passent au Japon, justement.
Éternel adolescent.
Tokyo Tribe, qui a une excellente édition Blu-ray, avec une image magnifique d'ailleurs, chez nous.
Et qui n'a pas du tout marché. C'est vrai que c'était un des problèmes, puisque des 5 films de 2015, il n'y en a aucun qui est un distributeur. À Cannes, on a rencontré l'Anikatsu, donc Kimiko Kawai, qui est chargé des ventes internationales, qui nous a dit ça. Quand je vais en France, tout le monde me parle de Sonotion. Elles sont vraiment très populaires ici, mais quand j'ai vendu Tokyo Tribe, il n'a pas très bien marché, ce qui est une vraie déception. Là, j'ai The Whispering Stars, qu'on a montré à Toronto, c'est un film magnifique, mais que personne ne semble vouloir acheter. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une époque où on a eu quelques Sonotions qui ont arrivé? Ça a malheureusement tous été des échecs. Kill Off Romance, ça a été un échec absolu.
Les sorties,
Tokyo Tribe n'a pas marché. Et maintenant, ça semble être devenu un cinéaste vraiment de niche quelques cinéphiles vont voir les films au cinéma ou pendant les festivals, les autres les téléchargent, et finalement c'est pas un cinéaste vraiment exportable
en France, dehors d'une grandeur, petite
Le truc Guilty of Romance a eu une jolie distribution, j'ai même pu le voir moi chez moi. Si j'ai même
été
non en termes de copies, je veux dire mais c'est dommage quoi, parce que moi j'ai même pu le voir alors que
mais après il est sorti,
Metz,
il est sorti l'été, il est sorti l'été en catimini je crois, c'est pareil.
Oui, il était sorti en août, on était partenaire du coup, et il avait fait même pas 1000 entrées France, donc
Land of Hope,
il n'y avait pas eu de promo,
les gens vont voir que les blockbusters,
c'était sorti le plus consensuel,
mais Land of Hope, j'ai pas les chiffres, mais il me semble que ça n'avait pas du tout marché à part de Metropolitan.
Sérieusement,
c'est effectivement le film le plus classique,
film familial, il est pas là.
Bon, le sujet est dur, mais visuellement, c'est son film le plus classique, je trouve, enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu.
J'ai vu, Télérama aimé.
Je sais que j'ai fait découvrir Sodassium, notamment à ma mère, grâce à ce film-là.
Elle est restée à ce film-là,
ouais. C'est peut-être mieux. Ouais. Mais au moins, maintenant, elle connaît un peu le nom. Quoi.
Elle pourra voir Virgin Psychic.
C'est une très bonne idée.
Parce que Tag a un bon potentiel pour être vu du grand public, quoi.
Je suis pas sûr.
Non.
Mais c'est comment même... Alors, je vais poser la question.
Bah, l'univers du jeu vidéo.
Ouais, mais c'est très.
Qui est comment symbolique, proposer très, du Sonosphere en France. Comment le faire découvrir, et s'il y a des distributeurs ou des exploitants qui nous écoutent, quel film est-il possible de sortir et comment l'amener au grand public français?
Moi, ce que vous m'avez dit, Fausto. Fassoulou, le rédacteur en chef de Mad Movies et puis programmateur du PIF, m'a dit on pourrait faire un festival entièrement sur Sonosphere, on ferait ça comble à chaque séance.
Bah oui, parce que c'est voilà. Un festival, voilà. C'est complet.
Parce que ça touche un public de cinéphiles, et voilà. Voilà.
Tu parles du PIF.
Du PIF, voilà.
Dans tous les festivals.
Voilà,
c'est voilà.
Allez, mais au-delà de ça va.
Oui, au PIF, ils ont projeté Tag et Virgin Psychic, ça a bien marché aussi.
Et ça fait toujours ça le compte, mais est-ce que c'est pas finalement un cinéaste,
voilà, c'est ce public-là,
même
quoi.
Quand il fait des gros films au Japon, un peu d'initié.
Et d'ailleurs, ça compte dans un festival en fait à Paris ou à Bruxelles.
Parce qu'il y a tous les fans qui sont là. Quoi.
Et voilà,
oui, puis il y a les gens qui achètent un pass pour le festival, qui sortent et puis.
Non mais c'est paradoxal parce qu'il y a des gens qui viennent au festival que pour voir le Sonosphere, je veux dire, c'est un rockstar, mais il fait 20 minutes de standing ovation à l'étrange festival.
C'est une projection.
Mais le problème c'est qu'à pas les DVD et les Blu-ray ne vendent pas.
Les personnes achètent les DVD qui sont dans la salle, mais c'est les seuls.
Non, justement, parce que ces gens-là, justement, ont déjà vu le film, ou sinon ont déjà vu les autres films.
Oui, mais ça n'empêche pas forcément de l'acheter.
Absolument.
Tu prends le coffret Suicide Club, il est magnifique.
Non mais les gens n'achètent pas.
Non mais moi j'achète pas.
Les gens.
Jérémy, tu nous as rejoint. Bonjour Jérémy.
Bonjour à tous. Vous et à tous.
Bonjour
Jérémy.
Bonjour.
Bah alors comment on va faire une forme de conclusion autour de Sonosphere, quel est toi ton film préféré de Sonosphere?
Mon film préféré de Sonosphere. C'est une bonne question.
Bon, il y aura un point de montage, il faut que tu t'approches du coup.
Bah, j'aime bien Why Don't You Play in Hell quand même. Qui représente vraiment Sonosphere dans toute sa splendeur. C'est un truc complètement fou, qui déborde d'amour pour le cinéma, libre. Et voilà, je pense que ça résume assez bien Sonosphere. Et donc voilà.
Bien.
Ce sera le mot de la fin, non?
Parfait. presque. Est-ce que j'ai aussi envie de demander si justement il y a beaucoup de projets, donc il y a un Shinjuku Swan 2 qui arrive. Il fait un roman porno avec Nikatsu. Il cherche des financements pour un film international. Donc voilà, il y a beaucoup de.
Et il y a son segment.
Ah, mais il y a toujours 46 projets.
Son segment dans le film Omnibus sur l'amour, Mad Live.
Et est-ce que finalement on perd pas un peu, mais ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, cette notion dans l'accumulation de projets qui sont personnels, impersonnels, qui peuvent être très différents, mais finalement où il y a quand même, quand on regarde cette filmographie, tout est excellent jusqu'en 2010, 2011.
On peut craindre qu'il le
même. Et après ça se délite un peu. En tout cas, on peut être moins d'accord sur la qualité de la Virgin Psychic, par exemple.
Et Virgin Psychic est très bon.
J'ai dit qu'on pouvait être moins d'accord, c'est moins consensuel, même quand on aime Sonosphere. Voilà, il y a quand même commence à y avoir des déchets dans l'accumulation de.
On peut craindre qu'il se miquise, mais son notion est assez atypique pour changer de virage, enfin de prendre un virage tous les ans ou même tous les 6 mois, donc on ne sait jamais, il est tellement imprévisible qu'au final, je pense qu'il se renouvellera assez rapidement.
Le meilleur film est sans doute à venir.
Voilà. Oui.
Quand on fait 4 ou 5 films dans une même année, c'est difficile d'avoir vraiment 4 ou 5 chefs-d'œuvre. Ouais.
Mais par contre, je sais une chose, c'est que la grande crainte de ce notion, on en avait parlé, c'était justement de se normaliser, mais surtout c'est d'être reconnu à l'international comme un cinéaste institutionnel. C'est, lui, là, il a peur de faire comme Kitano, c'est-à-dire être invité et récompensé dans un grand festival et après,
c'est
après
le
vampiriser. Quoi,
et le...
Alors,
ça pourrait, hein. Quand il va à Cannes, il a la quinzaine, et la quinzaine, pardon, c'est comme...
Guilty of Romance a été sélectionné à Cannes, à la quinzaine des réalisateurs.
La quinzaine, c'est un peu différent.
Oui. La quinzaine, c'est
et je sais pas, moi, il me donne un peu l'impression.
Oh, il pourrait, hein.
C'est peut-être faux, mais il pourrait essayer. Un peu manger à tous les râteliers, c'est-à-dire.
Oui, Landofo, par exemple.
Je pense qu'il a peur de la reconnaissance.
Landofo est très posé, très carré. Un sujet très fort, très festival.
Bah, Takashi Miike a été à Cannes
avec toutes les années.
N'importe quoi. C'était Warren Osate.
C'est très beau aussi. Et
à côté, Sonotion aurait pu être. Ça a été un échec complet d'ailleurs, c'est la présentation de ce film.
Oui, le truc, c'est qu'avec Cannes, c'est on a envie d'avoir tel réalisateur, donc on prend ce qu'il a fait.
Oui,
et Sonotion, vouloir à Cannes, moi, ça
pour l'instant, c'est pas d'actualité. Mais
Non, mais ça pourrait.
Non, mais vu les films qu'il fait,
c'est très beau. Jamais.
Juste que pour tous ceux qui ont un peu peur, je pense que vu les films qui sont sortis récemment, qui étaient tous soit moyennes, soit corrects, soit un peu
discutables. Tag est très très bon.
J'aime beaucoup Tag, mais je trouve que Tag, c'est plus se reprendre sur ce qu'il a fait, qui a fait en sorte qu'il a fait des bons films avant, que vraiment faire quelque chose de nouveau avec ces films. Pour moi, Tag, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai trouvé ça que c'était un peu de la redite.
À la rigueur, il pourrait
passer
ses anciens films au cinéma de la plage, mais je crois que j'en ai pas vu encore.
Tu vas sur Cannes.
Je veux dire, on parlait de gros festivals, mais Cannes, ça peut être Venise ou.
Venise ou Berlin. Il pourrait plus avoir sa place d'ailleurs à Venise ou Berlin. Elias, pour.
Donc, je veux juste te dire que pour tous ceux qui vont avoir peur de ça, attendez de voir Whispering Star, parce que j'ai pu le voir en sans sous-titres, certes, mais c'est un film qui est en grande partie muet ou alors avec un scénario très explicite, donc assez simple à comprendre. Je l'ai pas vu en VOST, donc j'ai vu en japonais quand j'ai vu à Tokyo. C'est un film qui, pour moi, vraiment montre que son notion est pas du tout à court d'idées. Il est capable de se refaire, capable de se reconstruire, capable de faire quelque chose de nouveau qu'il a pas fait avant et de le faire bien. Et c'est un peu le film de l'espoir, comme j'étais un peu déboussolé après des films que j'ai vus récemment sur Notion qui m'ont pas tous plu. J'ai bien aimé Tag, mais Love and Peace, je suis pas entièrement fan, mais j'ai beaucoup de gens bien aimé, dont Elvire.
Il y a une tortue qui chante.
Une critique quand même Virginie Psychique, parce qu'il y a des nanas ou gros seins. Hein.
J'ai pas critiqué pour ça.
Virginie Psychique, qui est pareil, qui est certain bien pour des raisons, mais que je trouve à part qualité un peu moins importante que ça.
Ah oui, non, bien sûr.
Whispering Star, c'est vraiment très très bon, et j'ai hâte que les gens le voient ici pour s'en parler. Et que moi je le vois en VOST aussi, parce que
j'avais été un peu refroidi par les retours que j'ai eus des gens qui détestaient viscéralement le film, et du coup tu me redonnes espoir.
Mais de ce que j'ai vu et de ce que j'ai compris, c'est peut-être pas dans son top 3, mais c'est un film important.
Son top 3 de l'année ou
de... Non, de la carrière entière. Non, l'année c'est le meilleur de l'année largement.
Il y avait des bons retours à Toronto, je crois.
Il y a eu deux. Je sais que par exemple, on va balancer, mais les gens du Black Movie ont détesté.
Mais il y a plein de choses qu'ils détestent.
Et donc, en tout cas, en plus, il me donne un peu espoir sur ce qu'il peut faire plus tard. Et je pense que ça peut. Il arrêtait pas de dire je vais changer d'idée, etc., changer de carrière. Mais pour moi, Spring Star, s'il y avait un film qui pouvait être le film pivot où il a changé de style, c'est ce film-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai un peu confiance en ce qu'il a dit, comme quoi il allait revenir à ses bases, etc. Qu'on pense qu'en plus c'est un film qu'il a écrit à 25 ans, comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Je pense que c'est un film qui va être important pour lui, hein, et pour sa carrière, et que j'ai vraiment hâte que le public français le découvre, et que moi je le découvre.
Très bien. Alors avec un peu de chance, on devra en parler au prochain podcast, donc au podcast de septembre ou d'octobre, s'il est présenté à l'Étrange Festival. Voilà, on croise les doigts pour qu'il y ait une sélection et qu'on puisse le voir à ce moment-là. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un mot sur ce notion. Vous avez des des questions, des thématiques que vous voulez évoquer, ou si on peut
suivre. Juste rappeler quelque Martin. Chose, merci. C'est que ce notion dit souvent que c'est ses films les plus personnels et qu'il préfère, c'est bah, Whispering Stars et puis Love Hate, qui sont comme ses films les plus doux, on va dire, abordables et puis un peu bluettes en fait, en tout cas, et qui sont un peu à contresens des films très punk, énervés, un peu gore, et puis donc voilà,
et pourtant c'est très son notion.
Voilà, moi j'ai très peur en fait, tu sais, que ce notion fasse un jour ce qu'on attend de lui, enfin, du moins, et qu'il répète une formule.
Pour moi, Tag, c'est un peu ça, justement.
Hein?
Pour moi, Tag, c'est un peu ça. Pour ça que j'ai pas trouvé mes tags.
Bah, pour moi, moi, je trouve que métier, il reprend certains trucs qui détournent, notamment la scène d'ouverture très choc qui rappelle celle de Sex Club, mais après, ça va quand même.
Et
là, c'est moi,
de,
et puis.
La fin de Tag est quand même extrêmement critique par rapport à ce qu'on peut attendre du cinéma de Sous-Motion. Exemple, Virgin Psychique, par exemple.
Oui. Et puis, non, et puis la fin est très poétique, quoi. Puis, c'est un film d'émancipation féministe.
Tag, en fait,
fort,
Tag,
quoi,
donc, moi, c'est pareil, j'ai pas trop apprécié, enfin, j'ai bien aimé, mais Tag, c'est vraiment un film, et en même temps, c'est une qualité, c'est un film qui demande. Une extrême, enfin, il fait énormément confiance au spectateur pour comprendre tous les symboles de lui-même.
Oui.
Et c'est vrai qu'il y a des trucs qui me paraissent encore assez obscurs au niveau de la fin, notamment tout ça, ou ce qu'il veut dire par rapport aux jeux vidéo ou au Japon, enfin tout ça, et à la société japonaise. Mais c'est vrai qu'il explique rien en fait, dans Tag. C'est en même temps la qualité.
Oui.
Mais le film est super court, donc il faut le revoir.
Oui, mais c'est agréable, un cinéaste qui fait confiance en son spectateur.
Non,
alors qu'on surligne régulièrement.
Exactement, mais ça, c'est pas un défaut. Après, c'est vraiment très court. Moi, j'aurais préféré qu'il soit peut-être un peu plus long, le film. Sans forcément expliquer.
Bah, ça t'a un peu difficile parce qu'il est toujours embêté sur la même rengaine. La
oui, c'est une boucle. Hein.
C'est une boucle et le personnage court. À chaque fois, il revient sur des voilà, des.
Oui, non, moi,
c'est à la limite.
Moi, je pense que c'est la bonne durée.
Voilà, la bonne durée.
C'était déjà un petit peu redondant à un moment donné.
Ah, ça, je l'ai pas ressenti, tu vois.
Non, non,
ça m'a saoulé. Je disais, oui, c'est pas le marathon, mais.
Non, c'est.
Mariage avec le cochon, moi, je trouve ça génial.
C'est génial.
Avec Efren pour conclure.
Non, mais sinon, on n'a pas parlé d'un film de Sonotion, c'est justement Bichur Toucher, qui est un film extrêmement personnel, parce que justement, c'est un film qu'il a fait pour son père, je crois.
Décédé.
Et oui, exactement. Et qui justement montre une autre facette de Sonotion qui pourrait être justement la prochaine étape de sa carrière.
J'espère pas. Alors, je pense pas que ce soit la prochaine étape de sa carrière. En fait, j'en avais parlé avec lui, et il m'a dit qu'il avait fait ce film-là justement. Pour faire du cinéma comme Ozu.
Ouais.
Et je pense pas qu'il le refera. Mais en tout cas, oui, c'était un film qui était très personnel par rapport à parce que son père venait de décéder, donc il a fait un film d'amour filial. Et une fois de plus, on revient à la thématique de la famille, l'explosion de la cellule familiale. Et c'est effectivement un film qui tranche un peu parce que c'est pas le, il n'y a pas la sauce anarchique complètement borderline de ses autres films. Et c'est un film plus consensuel. Très personnel, je pense pas qu'il a été très bien distribué d'ailleurs.
Non,
ni reçu. Hein.
Nicolas.
Bon, en fait, Sonotion, c'est quelqu'un qui change constamment en fait dans son cinéma, tu le sens. Et je pense que c'est un mec dans la vie qui est d'un jour à l'autre peut avoir une idée différente et prendre une direction différente. C'est ça qu'on ne saura jamais finalement. Il va te dire ça dans une interview, mais ça se trouve deux jours après, il va dire autre chose.
Enfin, il y a des thématiques quand même importantes, il y a la famille.
Mais dans son style, dans la manière d'aborder chaque film et d'aborder son cinéma, bah, tu sens que le mec il est changé en permanence. C'est ce qui fait en même temps son imprévisibilité et ce qui fait qu'on est toujours surpris et qu'on
ne peut pas vraiment défi. Hein.
Voilà quoi. Et ça va avec le côté anarchique.
Si.
Oh, mais il a ses périodes, en fait, ouais,
c'est un
marque
personnage.
Par période,
en fait,
quoi.
Oui, j'ai l'impression que c'est un personnage.
Et... Ah, non, parce que tu as d'apprendre certains éléments.
Dans chaque film comme étant un film.
Alors, oui, non, mais oui, c'est comme ça, il a la guerre, mais voilà.
Bon, je pense qu'on de toute façon, on reparlera, comme il y a L'Étrange qui arrive pour le prochain podcast de
Sonotion
à ce moment-là. On espère qu'il y sera, qu'il y aura une nouvelle interview. On parlera aussi dans le prochain podcast de XT, qui sort en DVD et DVD seulement, en octobre. Et bien voilà, see you Space Cowboys.
See you.